3. Essayez de réfléchir quelques instants. Quand est-ce que, pour la dernière fois, quelqu'un vous a félicité pour quelque chose? Vous a dit, là, je suis fier de toi. On pourrait poser la question inverse. Quand, la dernière fois, quelqu'un vous a-t-il fait un reproche? Vous a-t-il dit, vous a-t-il fait comprendre qu'il n'était ou qu'elle n'était pas fière de vous? Réfléchissez quelques instants. On trouve ces deux idées, fière, pas fière, dans la bouche même de l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux chrétiens de Corinthe. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous avez une Bible avec vous, sinon vous pourrez écouter la lecture qui sera faite. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Je vais lire le verset 2, et puis ensuite, nous passerons plus loin dans le chapitre pour lire tout un passage. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Paul s'adresse donc aux chrétiens de cette église de Corinthe et il leur dit « Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de maintenir fidèlement les traditions que je vous ai transmises. » Je relis ce verset parce qu'il est assez court. « Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de maintenir fidèlement les traditions que je vous ai transmises. » Ensuite, Paul parle des relations entre hommes et femmes dans l'assemblée de Corinthe et nous reprenons la lecture au verset 17 et nous lirons jusqu'à la fin du chapitre. Donc 1 Corinthiens chapitre 11 verset 17. Puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. Après avoir félicité les Corinthiens, Paul leur dit « Sur ce point-là, je ne vous félicite pas. » De quoi parle Paul? Je continue la lecture. « C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. » Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous avez une réunion, il y a parmi vous des divisions. Et j'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte. Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve soient clairement reconnus au milieu de vous. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler ça « prendre le repas du Seigneur ». Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions et que l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, le rompit et dit « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. » Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boivent de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps, se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Ainsi donc, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a particulièrement faim, qu'il mange d'abord chez lui, afin que vos réunions n'attirent pas sur vous le jugement de Dieu. Quant aux autres points, je les réglerai lors de mon passage chez vous. Ce matin, j'aimerais méditer avec vous ce passage de 1 Corinthiens 11 en trois temps. J'aimerais essayer de vous montrer que ce repas du Seigneur, la Sainte Cène ou la Cène, comme nous disons, est à la fois un geste communautaire, un geste personnel et un geste symbolique. Nous allons voir que ce repas est à la fois communautaire, personnel et symbolique. Qu'est-ce qui nous permet de dire que ce repas est un geste communautaire? D'abord, nous voyons que la scène est célébrée, en tout cas à Corinthe, au cours des repas d'église. Les gens se rassemblent, ils mettent ensemble leurs provisions, et au cours de ce repas, ils prennent du pain, du vin, et célèbrent le repas du Seigneur, comme dit Paul. Le problème, ce sont les divisions qu'il y a dans cette église. Quelles sont ces divisions? Je relis les versets 20-21. « Lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler ça « prendre le repas du Seigneur ». Car à peine êtes-vous à table, que chacun s'empresse de manger ses propres provisions, et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. » Il y avait dans cette église, comme souvent dans les églises, des gens de conditions sociales et financières différentes. Des gens plus riches, des gens plus pauvres. Et lorsque les gens se réunissaient pour prendre ensemble un repas, ceux qui avaient beaucoup, parce qu'ils avaient de l'argent, donc ils achetaient beaucoup de nourriture, prenaient vite leur repas, copieux, et certains étaient même ivres, alors que d'autres, plus pauvres, n'avaient pas de quoi se nourrir et boire. Et ça se passe dans l'église. Et Paul parle même des conséquences de ces divisions dans l'église. Vous avez noté ce que dit le verset 30. Souvent, nous arrêtons la lecture au verset 29 lorsque nous prenons ce texte pour la Sainte Cène. Nous lisons au verset 29 « Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. » Et Paul continue en disant « C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. » Paul fait donc un lien entre les divisions qui règnent dans l'église de Corinthe et la santé physique de certains des membres de cette église. On peut comprendre, je crois, de deux manières ce que dit le verset 30. Soit Dieu exerce un jugement dans cette église sur ceux qui, riches, méprisent les plus pauvres. Et donc, ceux qui sont malades, infirmes ou morts, ce sont les riches qui subissent le jugement de Dieu. Ou bien, on pourrait penser que ce sont les pauvres. À cause de l'attitude de certains chrétiens plus aisés financièrement, certains membres de l'église plus pauvres manquent de nourriture, manque de soins et meurt. Et ça se passe dans l'église. Premier point donc, la scène est un repas communautaire au sein d'un repas plus large. Et il semble que dans les premières périodes de l'église, on ne faisait pas trop la distinction entre un grand repas festif, et puis un moment particulier de ce repas où on partageait le pain et le vin, selon ce que Jésus avait institué. Par la suite, dans l'histoire de l'Église, on a séparé ces deux moments, mais au départ, ce n'était pas le cas. Nous voyons aussi que Paul parle du corps. Je viens de le relire au verset 29, « Celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. » Et il me semble que dans le contexte de ce passage que nous lisons ce matin, le corps dont Paul parle, c'est l'Église. L'Église comme corps du Christ, et si vous relisez à la maison la suite, au chapitre 12, l'image que Paul utilise pour continuer sa discussion avec les Corinthiens, c'est l'Église comme corps, les dons que donne le Saint-Esprit aux membres d'un même corps. Je lis par exemple quelques versets, au verset 26 du chapitre 12. « Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. Or vous, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous, en particulier, en est un membre. » Le corps de l'Église, dont chaque croyant est un membre particulier. Et puis nous voyons encore au verset 25 que Paul parle d'une nouvelle alliance. Et là, Paul fait très probablement référence à une parole du prophète Jérémie au chapitre 31 et au verset 31. Je vous le lis. Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi j'étais leur suzerain, leur maître. L'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et cette loi qui vient dans le cœur de Dieu, le livre des Actes nous apprend que c'est l'Esprit Saint qui est venu à la Pentecôte et qui habite par la foi dans le croyant. Cette alliance nouvelle, Dieu l'a accomplie par son sacrifice. Et donc, lorsque nous nous réunissons pour prendre le repas du Seigneur ensemble, pour partager la Sainte Cène, nous affirmons que nous appartenons au peuple de la Nouvelle Alliance. Et donc, la Sainte Cène est en ce sens un geste communautaire. Discerner le corps, comme dit Paul au verset 29, c'est comprendre que le repas du Seigneur est un geste communautaire. S'examiner soi-même, dans le contexte de l'Église de Corinthe, s'oppose à un certain égoïsme, à un appétit féroce qui laisse de côté les autres membres de l'Église. Les paroles de Paul nous interpellent par rapport aux relations dans l'Église. S'examiner soi-même, c'est s'examiner par rapport à notre attitude vis-à-vis des autres. Ce n'est pas seulement par rapport à des scrupules individuels à l'égard de tel ou tel péché de la semaine. La parole de Paul va contre l'hypocrisie d'une église où les gens mangent les uns à côté des autres, mais sans partage, sans communion. Sans reconnaître, discerner l'Église comme corps qui est appelé à vivre dans l'unité. Cette semaine, nous étions à table en famille et nous avons eu une discussion assez intéressante sur le rythme de nos repas. Depuis un certain temps, nous trouvions, ma femme et moi, que notre fille traînait pour les repas. C'était interminable. Nous avions fini de manger, et puis elle traînait. Jusqu'à ce qu'elle nous dise, mais papa et maman, vous mangez trop vite. Et notre premier réflexe était de dire, mais non, c'est toi qui ne manges pas assez vite. Hein ? Les enfants ne doivent-ils pas se caler sur le rythme de leurs parents et leur obéir ? Et puis cette parole nous a interpellés, nous a fait prendre conscience que nous mangeions trop vite. Et en méditant ce texte, je me suis retrouvé un peu dans l'attitude de ces Corinthiens qui, peut-être sans le vouloir, se jettent sur leur nourriture parce qu'ils ont faim, sans prendre en considération ceux qui sont autour d'eux. Alors, je vous laisse réfléchir pour ce qui serait juste de faire dans vos propres foyers, mais peut-être avons-nous à réfléchir sur le rythme de nos repas, ou de notre vie professionnelle, ou de notre vie de couple, de notre marche avec le Seigneur. Amen. Quels sont les domaines de notre vie où nous vivons égoïstement, sans tenir compte de ceux qui sont avec nous? Cela m'amène à quelques questions pour terminer ce premier point. Est-ce que nous nous attendons les uns les autres? Comme Paul le dit, je reviens maintenant à 1 Corinthiens 11, comme Paul le dit au verset 33, « Attendez-vous les uns les autres. Est-ce que nous nous attendons les uns les autres ?» Quand nous partageons des repas fraternels, nos agapes, mais aussi plus largement dans notre vie d'assemblée, est-ce que nous formons véritablement un corps? Ou est-ce que nous sommes simplement des gens assis les uns à côté des autres? Il y a le risque qui nous guette toujours de vivre les uns à côté des autres sans être véritablement en communion, avec un souci et un amour réel les uns pour les autres. Comment veillons-nous les uns sur les autres par rapport à la santé, par rapport à nos finances, par rapport à l'aide que nous pouvons nous apporter les uns aux autres sous une forme ou sous une autre? Le repas du Seigneur est donc un geste communautaire, c'est aussi un geste personnel. Le verset 19 dit « Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve soient clairement reconnus au milieu de vous. » C'est un verset qui n'est pas facile à comprendre. Qu'est-ce que Paul veut dire là? Il me semble que pour Paul, les divisions dans l'église de Corinthe sont un péché, une faute grave devant Dieu, et qui, de fait, révèlent quels sont ceux qui vivent en communion avec les autres et quels sont ceux qui vivent égoïstement. Et donc, par la situation même de l'Église, il y a une distinction entre les personnes. Et il y a donc pas seulement une communauté, des gens réunis ensemble, il y a aussi un certain tri qui s'opère entre les personnes. Alors, en lisant ce texte, je me suis dit, peut-être ne faut-il pas attendre une division dans l'Église pour faire nos preuves, comme dit Paul, pour être fidèles dans notre marche avec le Seigneur. Et je pense à ce verset de Michée, chapitre 6, verset 8, que notre frère Jean-Paul connaît par cœur. « On t'a enseigné, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté, et qu'avec vigilance tu vives pour ton Dieu. » Ou dans une autre traduction, « et que tu marches humblement avec ton Dieu. » C'est à cela que, non seulement l'Église, mais chaque croyant en particulier, est appelé à vivre humblement avec son Dieu. Le deuxième élément que j'ai noté, c'est le verset 28. Paul dit que chacun est invité à s'examiner devant Dieu. Et au verset 27, il dit « Quiconque mangerait le pain ou le vin. » Et au verset 29, « Car celui qui mange et boit sans discerner. » Vous voyez, Paul parle de « vous, les Corinthiens, à chacun, chaque personne en particulier. » Le repas du Seigneur a un aspect communautaire et un aspect personnel, individuel. Le repas pris en commun n'annule pas la responsabilité individuelle. Et donc, ici, chacun est appelé à progresser dans sa compréhension de ce qu'est le repas du Seigneur, pour y participer plus profondément, c'est-à-dire développer davantage la communion fraternelle. Et vous voyez, il y a un aller-retour entre l'aspect communautaire et l'aspect personnel. L'un nourrit l'autre, si j'ose dire. Et je pense que entre les deux, il y a un équilibre à trouver. Si l'on met trop l'accent sur le côté communautaire, on risque de transformer la Sainte Cène en un repas simplement traditionnel, un phénomène de groupe sans questionnement personnel. Or, la Bible nous dit que chacun est responsable devant Dieu de ses actes. Et d'un autre côté, si l'on met trop fortement l'accent sur le côté personnel, individuel, on risque de réduire la Sainte Cène à un moment d'introspection individuelle, sans lien avec les autres croyants. Et à ce moment-là, c'est ma relation avec Dieu, coupée du monde extérieur, qui est la seule valeur. Attention donc à l'influence de notre société individualiste qui nous pousse à vivre les uns à côté des autres mais sans véritable relation. Attention aussi à un examen de conscience trop scrupuleux, trop poussé. La scène, prendre la scène, ce n'est pas recevoir un certificat qu'on se donne à soi-même, qu'on a bien agi pendant la semaine. Ce n'est pas non plus un geste à refuser systématiquement par sentiment de culpabilité. 1 Jean 1,9 nous rappelle que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous avons donc libre accès auprès du Père pour lui demander pardon. Nous pouvons aussi aller voir un frère, une sœur dans l'église pour partager une difficulté, un souci, prier ensemble, confesser quelque chose, s'il y a besoin que cela soit partagé. Mais si nous sommes en paix avec Dieu, pourquoi se priver de ce temps de communion pour des scrupules ? Il y a 2 situations problématiques. Si quelqu'un vit dans le péché et prend la scène pour la forme, sans comprendre le sens du geste qu'il est en train de faire et sans vouloir changer de vie, alors là, oui, peut-être mieux vaut-il s'abstenir de prendre le pain et le vin, car il n'y a pas de cohérence entre une piété personnelle et le geste extérieur. D'un autre côté, celui qui vit en tant que chrétien et parce qu'il connaît des chutes ou qu'il a des faiblesses, s'abstiendrait tous les dimanches de prendre le pain et le vin parce qu'il ne se sent pas en communion avec les autres. Cette attitude me semble aussi problématique. Si cela vous arrive un dimanche, eh bien vous pouvez laisser passer le pain et le vin. Mais si chaque dimanche on se sent indigne devant Dieu, c'est ce sentiment d'indignité qui doit être mis en lumière devant Dieu. Parfois, se sentir indigne peut être une façon de refuser le pardon de Dieu. Et il y a des gens qui, de être indignes, font le pas et se sentent impardonnables. Et quand on est impardonnable, on n'a pas de raison de changer. La scène est donc un repas communautaire et aussi un repas personnel. C'est enfin un repas symbolique, et ce sera mon dernier point. Nous réfléchissons ensemble le jeudi soir, et ce jeudi, nous aurons une rencontre sur un des thèmes de notre série sur les gestes symboliques dans une église de professants. L'église de professants, ce sont des gens qui professent, déclarent leur foi en Jésus-Christ et ne sont pas simplement des chrétiens de nom ou des chrétiens parce qu'ils viennent à l'église, mais parce qu'ils mettent leur foi en Jésus-Christ et vivent en tant que chrétiens. Eh bien, la scène fait partie de ces gestes symboliques que le Seigneur nous a donnés pour que nous le pratiquions. Et j'aimerais maintenant centrer nos regards sur les versets 23 à 26 d'1 Corinthiens 11. J'aimerais les relire. « Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Paul parle d'une tradition. Une tradition qu'il a reçue et qu'il a transmise. Et c'est Jésus lui-même qui lui a transmis cette tradition. Et nous voyons dans les évangiles que c'est Jésus lui-même qui institue ce repas de scène. Par exemple, dans l'évangile selon Matthieu, nous lisons « Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. » Jésus se situe là avec ses disciples quelques heures avant sa mort. Et au cours d'un repas, là encore, il prend du pain et du vin qui étaient là sur la table et il leur donne un sens nouveau, un sens particulier. Et avec le baptême, la Sainte Cène est le deuxième sacrement. On entend ce mot parfois, plutôt dans l'Église catholique, mais aussi dans d'autres confessions chrétiennes. Et ces deux sacrements ont été retenus par les réformateurs au XVIe siècle et pratiqués par les églises protestantes jusqu'à aujourd'hui. Et si vous remarquez ce que dit Jésus et que Paul reprend, ce repas du Seigneur, cette scène, ce partage du pain et du vin n'est pas une option. Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Le verbe là est à l'impératif présent, donc on peut penser à quelque chose qui est imposé et aussi en continu dans le temps. C'est une tradition et c'est un repas de souvenir. Et pour se souvenir, nous qui sommes oublieux, il faut répéter le geste et son sens un certain nombre de fois. La Bible ne nous donne aucune directive par rapport à la fréquence avec laquelle nous devons partager le pain et le vin. Et donc, certaines assemblées prennent la scène une fois par an, ou bien une fois par mois, ou bien une fois par semaine, c'est comme ça que nous faisons ici, une fois par semaine. Et puisque c'est un souvenir à partir de ce que Jésus a institué, nous n'inventons rien lorsque nous présentons et que nous partageons la scène. La scène est un acte de confession de foi et d'engagement. Et j'aimerais prendre quelques instants pour finir sur ce point. La scène comme acte de confession et d'engagement. On retrouve là la double dimension communautaire et personnelle. Communautairement, et individuellement, nous confessons notre foi en la mort du Christ. C'est ce que dit le verset 23, pour être mis à mort. Le verset 25 parle du sang qui vient sceller la nouvelle alliance. Et le sang dans l'Écriture, c'est la vie qui est ôtée, c'est la vie sacrifiée. Jésus a donné sa vie et le sang est le symbole de sa vie donnée pour nous. En prenant la scène, nous confessons notre foi aussi en sa résurrection et en son retour. Le verset 26 finit en disant « et ceci jusqu'à son retour, jusqu'à ce qu'il vienne ». Et donc dans cette formule, on a à la fois l'idée que Jésus est vivant et qu'il va revenir. La scène est donc un repas de souvenir et non une commémoration à la lettre du dernier repas du Christ. Jésus ne nous a pas demandé de reproduire à l'identique le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples avant de mourir. Et donc, la forme du repas est toute relative, secondaire. Le nombre de coupes, est-ce qu'on prend une grande coupe ou des petits gobelets? Est-ce qu'on met du vin ou du jus de raisin? Est-ce qu'on prend du pain de mie, du pain baguette, du pain azim, etc. Tous ces éléments peuvent avoir leur importance symbolique, mais sont secondaires par rapport au sens de ce repas. Je pense qu'on peut quand même dire, attention de rester proche des symboles que Jésus nous présente. Je ne suis pas sûr que ce soit très judicieux de servir du jus d'orange et de la brioche au beurre, par exemple. Ça peut être sympa pour un apéritif, mais nous ne prenons pas un apéritif. Jésus parle quand même du fruit de la vigne et de pain. Attention donc de ne pas chercher à être absolument original. Mais l'important, c'est le rappel, c'est le souvenir de l'efficacité de l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Quelques versets avant, au chapitre 10 et au verset 16, Paul nous dit « La coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice du Christ qui a versé son sang pour nous ?» Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps du Christ offert pour nous? Nous sommes au bénéfice. Et c'est cela que nous rappelons. Nous sommes au bénéfice de ce que Jésus a fait pour nous. Manger le pain et boire le vin, c'est donc s'approprier spirituellement et le pain et le vin que nous incorporons physiquement nous montre que par ce geste, nous nous engageons, nous nous approprions, nous incorporons le sens de ce repas. Nous disons, oui Seigneur, c'est vrai pour moi, oui Seigneur, c'est vrai pour nous. Nous nous approprions les bénéfices de la mort de Jésus-Christ et l'espérance de sa résurrection. Et donc, lorsque nous prions, pendant le repas de scène et à ce moment précis, nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Nous ne bénissons pas le pain, nous ne bénissons pas le vin, les éléments sont secondaires. Nous bénissons Dieu et nous remercions Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Il n'y a aucune transformation du pain, aucune transformation du vin, comme cela est confessé dans d'autres traditions chrétiennes. Jésus lui-même dit que c'est un repas de souvenir. Faites ceci en mémoire de moi. Mais nous voyons aussi que ce n'est pas un pur souvenir, ce n'est pas un pur symbole, c'est un geste qui engage celui ou celle qui le prend. Et donc on doit le prendre avec conviction et avec la conscience qu'on sait ce qu'on fait quand on le prend. Et j'aimerais ajouter encore que c'est un repas d'engagement, mais un repas d'engagement renouvelé, à vivre en tant que disciple du Christ. Et là, nous sommes ramenés à la responsabilité personnelle dont Paul parle, que chacun s'examine lui-même. en mangeant le pain et en buvant le vin, nous faisons nôtre le pardon de nos péchés à la croix, l'espérance de notre résurrection et du retour du Christ, pour que lui vienne établir son royaume sur une terre renouvelée. Et donc, d'une certaine manière, il y a comme un ordre logique entre le moment où Dieu nous appelle, la conversion, le moment où nous confessons publiquement notre foi lors de notre baptême, et cet engagement renouvelé que nous prenons ici, dimanche après dimanche, à partager ensemble, entre croyants rachetés, le pain et le vin qui nous rappellent régulièrement l'œuvre du Christ pour nous. Et donc, une perspective, une approche professante du repas du Seigneur dit que ce repas est un repas de mémoire et d'engagement transmis et ordonné par Jésus-Christ à toutes celles et ceux qu'il appelle à vivre comme ses disciples. Et donc, comme une mise en pratique de ce message de ce matin, de ces paroles de Paul, je vous invite à partager ensemble et personnellement ce repas du Seigneur. C'est l'occasion de répondre à l'appel de Jésus-Christ par un acte concret, un acte qui nous engage. Et donc, Philippe va revenir et nous allons ensemble prendre un temps dans la prière pour partager ensemble ces éléments. Amen.